Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
10 ans après l'intervention américaine, l'Irak semble se diriger peu à peu vers un clivage confessionnel toujours plus marqué. Le Vatican organise une rencontre importante et inédite à Rome pour favoriser la connaissance intercommunautaire et étudier des perspectives de dialogue. Des chrétiens battus par des extrémistes hindous en Inde, leur lieu de culte a été saccagé. À l'approche de la fête de Deepavali, le Vatican plaide en faveur de relations respectueuses, d'amitié et de solidarité. La Corée du Sud se prépare à accueillir l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Les participants veulent œuvrer à la guérison d'un monde en mutation rapide par la prière, la communion, le témoignage et l'action. Mais tout d'abord, cette information dont nous vous parlions hier dans ce magazine, l'armée syrienne a repris le contrôle du village chrétien de Sadad après plusieurs jours d'âpres combats contre des rebelles et des djihadistes. Les 1500 Syriens, hommes, femmes et enfants, qui étaient encerclés dans ce village chrétien sont désormais libres. Le père syrien Ziad Hilal s'est rendu ce mardi matin à Sadad. Il décrit un village dévasté et des familles traumatisées. On l'écoute.
J'étais à Sadad ce matin avec un autre prêtre syrien catholique. Il y a pas mal des bâtiments, des maisons qui étaient endommagées ou détruites. Entre autres, il y a l'école principale du village qui était envahie, détruite aussi. Il y a les autres bâtiments officiels. Et j'ai rendu visite aux 4 églises là-bas, 3 églises syriaques orthodoxes, une église catholique, syriaque catholique. Les 4 églises étaient endommagées. Ils l'ont utilisé comme un logement au lieu de logement. Donc, il y avait des matelas, des couvertures dedans pour les fanatiques, les voyous qui sont venus au village. Ce qu'ils ont fait aussi, ils ont écrit sur le mur des églises, dedans, à l'hôtel et partout, des slogans. Ils ont cassé les 4 saints sacrements dans les 4 hôtels des 4 églises. Il y a pas mal de dégâts dans les 4 églises, aussi dans les rues. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu aussi le prêtre principal là-bas. Il m'a parlé qu'ils ont jusqu'à hier enterré 29 morts chrétiens du village. Il en reste 2 d'après lui. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour le moment.
Combien de chrétiens étaient assiégés dans cette ville?
J'ai vu pas mal. Il y avait à peu près 1500 personnes qui étaient là-bas. Elle n'a pas pu sortir. Ce matin, j'ai vu quelques voitures pleines des enfants, des hommes, des femmes qui ont vécu ces jours terribles. Que donc, ils ont préféré de sortir quelques jours, venir à Homs ou dans d'autres lieux. Et après, je ne sais pas si elles vont revenir ou non.
Qui s'occupe à l'heure actuelle de ces familles? Est-ce qu'elles sont prises en charge par des organisations humanitaires, des associations?
En fait, jusqu'à maintenant, c'est les églises qui organisent des aides humanitaires. Donc, on est en train de contacter les uns et les autres des organisations afin de commencer l'urgence ou aider les gens. Aussi, il ne faut pas oublier que c'est la charge de l'État aussi de travailler, nettoyer aussi les rues, les écoles, les bâtiments officiels.
Les rebelles qui se trouvaient dans le village de Sadad ont fui, ont été tués par l'armée?
Il y avait un combat, la plupart ils ont fui, les autres je pense ils étaient abattus.
Le prêtre syrien Ziad Hilal, interrogé par Hélène Destombes. Et toujours à propos de la situation en Syrie, écoutez le nonce apostolique, Monseigneur Mario Zenari.
Malheureusement, la situation est toujours la même. Mais il faut dire quand même que ce qu'on a vu il y a un mois et demi à l'occasion de la prière grâce à la belle initiative du pape François, c'était un très bon résultat. Et alors je crois que ce résultat positif, cet éclairage doit donner espoir, doit aider, encourager tout le monde, la communauté internationale à continuer, parce que nous savons que les difficultés sont énormes, Mais si on a déjà réussi à obtenir quelque chose, comme à éviter que les conflits soient propagés encore plus. Malheureusement, oui, il y a tous les jours des victimes, ça croît le nombre de réfugiés, de déplacés. Il y a par ici et par là des choses aussi encourageantes, même si le panorama vraiment est décourageant. Mais il ne faut pas, je crois, se décourager, surtout la communauté internationale, de continuer et arriver, comme on souhaite, à une conférence de paix, à s'asseoir autour de la table et traiter la question surtout de cesser les faits, cesser la violence et chercher une solution politique.
Le nonce apostolique à Damas, interrogé par nos confrères de la rédaction italienne. En ce qui concerne l'Irak, le Vatican veut instituer un comité permanent de dialogue avec les communautés religieuses. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux accueille pour la première fois une importante réunion à laquelle participent des fonctionnaires du ministère irakien pour les affaires religieuses chargés des différentes communautés chiites, sunnites, chrétiennes, yazidis, sabéennes. Les travaux ont été ouverts par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical. L'objectif du dicaster est d'entamer une collaboration avec les communautés religieuses d'Irak dans le but de mettre en place un comité permanent de dialogue. Après une présentation des communautés religieuses irakiennes et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, les discussions se concentrent sur la situation actuelle de chacune de ces communautés et sur le dialogue qu'elles entretiennent. Mercredi, à l'issue de leurs travaux, les participants salueront le pape François à la fin de l'audience générale hebdomadaire. 10 ans après l'intervention américaine, l'Irak n'a jamais vu la paix s'installer durablement dans ses rues. Il y a quelques mois, le premier ministre Nouri al-Maliki avait parlé de guerre civile confessionnelle. Formé majoritairement de chiites, l'Irak se compose, comme la Syrie, d'un panel d'ethnies et de groupes religieux. Les Nations Unies elles-mêmes craignent un embrasement de la situation dans tout le pays. Les hindous célèbrent le 3 novembre prochain la fête de Deepavali. C'est la fête de la victoire de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Et c'est l'occasion pour les familles de se réunir et si nécessaire, de se réconcilier. Comme chaque année, le Vatican a adressé ses vœux à toutes les communautés hindoues dans un message signé par le président et par le secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
Le Vatican souhaite que les chrétiens et les hindous favorisent des relations respectueuses par l'amitié et la solidarité dans un monde sans cesse plus compétitif. Ce monde, affirme le message, est marqué de tendances toujours plus individualistes et matérialistes qui affectent négativement les relations humaines et créent souvent des divisions au sein des familles et de la société tout entière. Aucune allusion directe, en revanche, aux exactions et aux discriminations dont souffrent les chrétiens en Inde. Depuis quelques années, ils sont victimes de la montée du fondamentalisme hindou. La pression est particulièrement forte dans l'état de l'Orissa. Il y a eu des violences et des décisions de justice arbitraires. Dimanche dernier, une fois encore, une assemblée de chrétiens a été attaquée par un groupe de 35 militants hindous armés de bâtons et de barres de fer. Selon les chrétiens sur place, on assiste à une tentative de polariser la société sur une base religieuse et ce, pour des raisons purement politiques, en vue des élections générales prévues en 2014 en Inde. Dans son message pour la fête de Deepavali, le Vatican souligne que la promotion d'une culture du respect, d'une culture de la solidarité, est un impératif pour tous les peuples. Cela exige que la dignité inhérente à la personne humaine soit reconnue et encouragée.
Toujours en Asie, plusieurs milliers de chrétiens, toutes confessions confondues, convergent vers la ville sud-coréenne de Busan. C'est en effet ce mercredi 30 octobre que s'ouvre la 10e Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Les travaux qui se poursuivront jusqu'au 8 novembre se concentrent sur les thèmes de la justice et de la paix. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble 349 églises, confessions et communautés d'églises présentes dans plus de 110 pays, soit quelques 560 millions de chrétiens. L'Église catholique n'en fait pas partie, mais elle y collabore à titre d'observateur. Une importante délégation catholique participera d'ailleurs à l'Assemblée de Busan. Elle est formée d'experts des questions œcuméniques. Antonino Gallofaro.
L'Assemblée générale est l'organe directeur suprême du Conseil œcuménique des Églises. Elle se réunit tous les 7 ans depuis sa fondation en 1948 à Amsterdam. Elle a pour tâche de définir les orientations générales du mouvement ainsi que d'élire les délégués et le collège présidentiel. 6 études bibliques ont été proposées aux participants pour préparer les travaux. Des temps de réflexion biblique, des méditations et des prières par petits groupes sont par ailleurs prévus tous les matins pendant toute la durée de l'Assemblée. Parmi les défis à relever, le document de travail mentionne les évolutions du contexte politique, la persistance de la pauvreté, l'augmentation des inégalités, les changements climatiques, les flux migratoires, les nouveaux médias, les évolutions des paysages ecclésiaux, la montée des églises pentecôtistes, charismatiques et indépendantes, surtout dans les régions du Sud. Pour les participants, c'est aussi l'occasion de découvrir la Corée du Sud, son histoire récente, son empreinte bouddhiste, ses martyrs catholiques canonisés par Jean-Paul II, la vitalité actuelle de l'église coréenne qui a survécu aux persécutions. Ils prieront aussi en faveur de la réconciliation entre les deux Corées et contre la menace nucléaire. Ils espèrent unir leurs ressources spirituelles pour offrir un témoignage de réconciliation au monde d'aujourd'hui.
Facebook, Twitter, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux sont autant de nouveaux supports pour l'évangélisation. Le père Sébastien Anthony est assomptionniste et journaliste pour Croire, un titre qui appartient au groupe Bayard Press, pour lequel le numérique est un important champ de diffusion du message de l'évangile. Il était de passage à Radio Vatican dans le cadre d'un pèlerinage avec des jeunes et des enfants, des jeunes qui maîtrisent déjà ces nouveaux supports numériques.
Eux sont rompus à l'internet, rompus à Facebook, rompus à Twitter, et donc évidemment manient le numérique et ses manières de communiquer aujourd'hui de manière très très simple et même naturelle. Et de pouvoir déjà leur dire que l'Église est présente sur ce média naturel pour eux, leur dire que l'Évangile peut être annoncé, découvert, transmis, tweeté à d'autres. Pour eux, c'est une grande découverte, ils ne le savaient pas.
Les nouvelles technologies, c'est véritablement un potentiel pour annoncer l'Évangile, un nouveau potentiel.
De toute façon, c'est incontournable. Ne pas y être serait de l'ordre du péché, je crois. Effectivement, il doit y avoir une présence de l'Église. Et bien sûr, l'Évangile doit être annoncé par toutes les manières, sur tous les supports, sans aucune restriction. Donc, évidemment, le numérique.
Le fait que le pape François tweete régulièrement des messages d'évangile, est-ce que vous avez vu quelque chose changer ces derniers mois dans la tweetosphère, on va dire, en tout cas dans ceux qui sont inscrits sur Twitter?
Disons que l'Église fait ainsi partie du paysage, j'allais dire, naturel. Le simple fait d'être une voix, sans doute parmi d'autres, parce que des Twitter, il y en a des centaines et des centaines, mais que l'Église y soit présente est important. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de followers que le pape peut avoir sur son compte Twitter pour voir que sa parole est entendue, diffusée, relayée. Que l'Évangile soit au cœur du monde, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, puisque c'est depuis les origines, mais qu'elle soit au cœur du monde, sur des réseaux sociaux, effectivement, il y a quelque chose ici de naturel, tout simplement.
Vous-même, pendant 3 ans, vous avez tenu un blog et dans la note de présentation, vous disiez « on va faire un deal, un article lu est une petite prière pour les gens qui sont le sujet de l'article ». C'est aussi ça, Internet, ça permet de faire la prière, c'est-à-dire une prière un peu numérique.
C'est ça, parce que finalement, même si c'est du numérique, même si on utilise des moyens nouveaux et récents, de fait, l'idée est toujours la même, c'est de l'écriture. Dans l'écriture, on prolonge sa pensée en pensant effectivement aux personnes, en les insérant dans une prière, en tout cas dans sa pensée, en disant son affection aussi. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas trompés. Quelqu'un sur Facebook qui vous suit, c'est un ami. Et on like, on aime ce qu'il fait. Donc il y a aussi ce vocabulaire finalement de l'amitié qui est utilisé par les réseaux sociaux. C'est un alphabet pour demain, c'est un média nécessaire. Si on a la passion de l'annonce de l'Évangile, c'est incontournable qu'on le veuille ou non. Mais c'est une grande joie et une grande chance, je crois, que d'être présent sur les réseaux sociaux pour annoncer le Seigneur.
Sébastien Anthony, prêtre et journaliste, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Le Saint-Siège est représenté par un jeune Français au 8e Forum des Jeunes de l'UNESCO qui se tient du 29 au 31 octobre au siège de l'organisation à Paris. Le thème choisi pour ce forum, jeunesse et inclusion sociale, engagement civique, dialogue et développement des compétences. Ce forum précède la conférence générale de l'UNESCO qui se tiendra, elle, du 5 au 20 novembre. La délégation du Saint-Siège participera activement à ces travaux et sera représentée par des membres et experts de différents dicastères du Vatican. Elle souhaite donner sa contribution au débat des commissions spécialisées ainsi qu'au forum des dirigeants. Le 6 novembre, l'observateur permanent du Saint-Siège, Mgr Follot, célébrera une messe à l'intention des participants en l'église Saint-François-Xavier. On priera pour une vraie culture de paix dans le monde. C'est C'est une première. L'Église catholique d'Amazonie se réunit à Manaus, dans le nord-ouest du Brésil. Cette rencontre, qui réunit évêques, laïcs, agents de la pastorale et responsables d'institutions, veut répondre à l'appel du pape François en faveur de l'Amazonie, un appel pressant qu'il avait lancé aux évêques brésiliens lors des JMJ de Rio, en juillet dernier. L'Amazonie, avait-il dit, est un test décisif, un banc d'essai pour l'Église et la société brésilienne. Et il avait encouragé les évêques à faire preuve de courage pour défendre cette région, ses habitants et son exceptionnelle biodiversité, aujourd'hui en danger. En effet, l'Amazonie, poumon de la planète, une des sept merveilles du monde, est en péril. Manuela Figi.
Le danger majeur, la déforestation. En 2012, l'Amazonie a perdu 487 km² de forêt. À ce rythme effréné de destruction, en 2050, la moitié de la forêt sera perdue, son précieux écosystème irrémédiablement bouleversé. Et les causes de ce phénomène sont plus complexes qu'on ne le croit, c'est ce que nous explique Jean Bakouma, directeur adjoint de la conservation à WWF France et ancien responsable du département forêt de l'organisation.
Il y a des causes qui sont directes, c'est celles qu'on voit lorsque, par exemple, une entreprise va couper du bois, va peut-être le faire de façon sélective, mais ce qui va causer la déforestation, c'est la façon dont l'entreprise va extraire du bois de la forêt. Et la cause indirecte, qui est plus dévastatrice en fait, c'est l'usage qui sera fait de l'endroit où on a coupé le bois pour transformer cet espace en terre agricole. Donc les causes indirectes, en réalité, sont plus dévastatrices que les causes directes. Il en est de même, par exemple, au Brésil. Lorsque la monnaie brésilienne était sous-évaluée, cela avait provoqué une course à l'exportation des produits agricoles. Et c'est ça qui a engendré la course à la conversion des forêts en terres agricoles. C'est une cause économique, une cause indirecte. C'est donc la demande de marché des produits agricoles, notamment le soja, avait provoqué finalement de la déforestation au Brésil. Donc il faudrait faire très 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 attention et avoir à l'idée que les causes de la déforestation, pour la plupart du temps, ne relèvent pas du secteur forestier, mais c'est un ensemble de facteurs à la fois exogènes et endogènes à la forêt qu'il faut contrôler si l'on veut combattre efficacement la déforestation.
La forêt recule au profit de l'élevage intensif, de l'agriculture, de la construction d'infrastructures ou de l'extraction minière, avec les dégâts écologiques que l'on connaît.
L'exploitation minière, c'est aussi dévastatrice que la conversion des forêts en terres agricoles. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on veut extraire de l'or, par exemple, pour extraire un gramme d'or, il faut tourner une tonne de minerai. Et pour dégager l'or que l'on veut de son minerai, il faut utiliser du mercure et beaucoup d'autres choses qui ont des conséquences en aval des rivières parce qu'il y a des rejets de pollution dans les rivières. Et cela impacte les villages qui sont beaucoup plus en aval, qui, un, ne vont plus se retrouver avec de l'eau potable, en tout cas ne pourront même plus utiliser cette eau, même pour leur propre baignade, et deux, ne pourront plus utiliser les ressources halieutiques dont ils avaient l'habitude de consommer. Donc l'extraction minière est une cause grave, il faut surveiller, qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on lutte contre la déforestation.
Dernier chantier en date, le barrage pharaonique de Belo Monte, contre lequel se battent les populations autochtones et les associations écologistes. La construction de ce barrage vient d'ailleurs d'être suspendue sur décision de justice. Une affaire qui illustre une fois encore le manque de dialogue entre les pouvoirs publics et les populations locales. Des populations dépassées qui voient impuissant l'Amazonie livrée aux convoitises et à la cupidité.
C'est l'agence France Presse qui l'annonce. Les familles des sept moines français de Tibérine, assassinés en 1996, seront reçues ce mercredi à l'Élysée. Elles demanderont le concours actif de François Hollande afin de convaincre Alger de laisser le juge antiterroriste Marc Trévidic se rendre en Algérie pour son enquête. Le père Armand Veilleux, ancien responsable des Trappistes, ordre auquel appartenaient les moines, sera présent à la réunion. Le juge d'instruction attend depuis près de deux ans le feu vert pour se rendre en Algérie avec comme seul objectif d'établir la vérité. Le juge veut accomplir plusieurs auditions et exhumer les têtes des moines pour l'autopsie. Le GIA, le groupe islamique armé de Jamel Zitouni, parfois soupçonné d'avoir été un agent infiltré des services algériens, avait revendiqué l'enlèvement et l'assassinat des sept moines. Les têtes des religieux avaient été retrouvées le 30 mai au bord d'une route de montagne, mais leurs corps ne l'ont jamais été, soulevant l'hypothèse que cette absence de dépouille ait été destinée à masquer les causes de leur mort. Après avoir suivi la thèse islamiste, le juge Marc Trévidic avait réorienté l'enquête vers une bavure de l'armée algérienne. Selon le témoignage d'un ancien attaché de défense à l'ambassade de France à Alger, les moines auraient été tués dans un raid d'hélicoptères militaires, tandis qu'ils se trouvaient dans ce qui semblait être un bivouac des djihadistes. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.